VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Nigeria, au moins 7 personnes tuées et 11 autres blessées par la chute d'un câble électrique alors qu'elle regardait jeudi soir un match de la Ligue des Champions à Calabar, dans le sud du pays. C'est ce qu'a indiqué la police ce vendredi. Mais l'agence de presse nigériane NAN avance quant à elle un bilan de 30 morts. L'accident s'est produit hier soir alors que des supporters du club anglais Manchester United et de son adversaire belge Anderlecht s'étaient rassemblés dans la rue pour regarder le quart de finale de la Ligue des Champions à la télévision. Au Cameroun voisin, l'Internet est de nouveau disponible depuis hier dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest après 3 mois de suspension. Cette sanction avait été imposée suite aux manifestations et grèves générales des anglophones qui se sont marginalisés, certains réclamant le retour au fédéralisme ou même la sécession. Le ministre camerounais de la communication, Issa Bakary Tchiroma, situe ici les enjeux de la normalisation en cours.
La menace sécessionniste n'existe plus. L'excitation et l'invitation à la violence, à l'insurrection, à l'incivisme, tout ça, ça a donc pratiquement disparu. Mais le chef de l'État instruit nos populations de demeurer vigilantes. Parce que dès lors que ces menaces pointent à nouveau à l'horizon, le gouvernement n'aura pas de choix. Au nom de la protection de l'intégrité physique de notre pays, de l'ordre établi, le gouvernement n'aura pas de choix que de revenir à nouveau sur la sécession de l'opérationnalisation de Internet. Quand on parle de la protection de l'intégrité physique, quand on parle de la protection de la paix, l'argent ne compte pas. L'argent ne compte pas parce que accumuler les milliards du monde entier, s'il n'y a pas consensus, si le peuple n'accepte pas, ces milliards n'auront servi à rien du tout. C'est vrai que la cessation du fonctionnement d'Internet a impacté l'économie, mais le gain en termes de protection de l'intégrité physique, de vouloir vivre ensemble, la paix et le retour à la normale sont de loin plus importants que les gains économiques.
Le ministre camerounais de la communication, Issa Bakary Tchiroma. Nouvelle tractation en RDC après l'échec de la médiation des évêques catholiques. La SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe, vient de s'impliquer à son tour dans le processus visant à sortir le pays de la crise politique, Eddie Sango.
Les ministres des Affaires étrangères de la SADC ont entamé hier à Kinshasa les consultations avec les parties congolaises au dialogue. Après les représentants de la famille politique du président Joseph Kabila, ils ont reçu l'opposition. Mais la réunion avec les rassemblements a provoqué un incident qui a été vite résolu en fin de journée. La branche dirigée par Félix Tshisekedi a quitté les lieux, jugeant insultant que la SADC rencontre l'aile conduite par Joseph Olingankoy. C'est plus tard dans la soirée qu'ils ont été reçus. Pour eux, l'accord du 31 décembre doit être appliqué. Pour les autres, seule la question du président du Conseil des suivis de la transition et la signature des arrangements particuliers reste à résoudre. 2 jours plus tôt, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Sidoukou, avait lui aussi lancé des bons offices.
Au Rwanda, un ancien chef de milice dans la province de Gisenyi, dans le nord-ouest du pays, condamné hier à la prison à vie par un tribunal de Kigali pour son implication dans le génocide de 1994. Les détails avec Eric Manirakiza.
La haute cour à Kigali a déclaré coupable de crime de génocide Bernard Munyagishari et l'a condamné à la prison à perpétuité. Au moment des faits, il était président pour la préfecture de Gisenyi des extrémistes et Hutu Interahamwe, fer de lance du génocide. Selon Emmanuel Itamwa, porte-parole des cours et tribunaux, il a 30 jours pour faire appel. Munyagishari était poursuivi pour des faits perpétrés dans la préfecture de Gisenyi, notamment au cimetière surnommé Commune Rouge, où les Tutsis étaient ensevelis dans des fosses communes. L'ex-chef de milice est le deuxième accusé du tribunal pénal international pour le Rwanda transféré à Kigali. Le pasteur pentecôtiste Jean Uwinkindi attend son jugement en appel. Il avait été condamné à la prison à vie en première instance. Le TPIR, qui était basé à Arusha en Tanzanie, a fermé ses portes fin 2015.
Soudan du Sud, la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, va retirer son personnel de certaines zones frappées par la famine dans le pays. L'organisation prévoit aussi de recourir à des hélicoptères pour la livraison de l'aide humanitaire à cause de l'insécurité. Abdourahmane Dia.
La décision de la FAO de se retirer de certaines zones fait suite à l'assassinat de 3 travailleurs humanitaires la semaine dernière. Le Soudan du Sud fait face à une crise alimentaire sans précédent. Plus de 80 agents humanitaires ont été tués depuis le début de la guerre civile en 2013. La FAO a temporairement retiré 40% de son personnel de la région de Wao, au nord-ouest de la capitale. Pour amoindrir le risque pour ses employés, l'organisation veut recourir à des hélicoptères pour faire parvenir l'aide dans des zones touchées par la famine. Cependant, cette méthode sera 10 fois plus coûteuse alors que l'ONU fait face à un manque criard de moyens pour financer ses activités. Un responsable onusien a même avoué qu'une absence du personnel sur le terrain affectera négativement les activités. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 Sud-Soudanais souffrent de famine et plus d'un million sont menacés à cause de la sécheresse et de la guerre civile.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité américaine, les 100 premiers jours du président Donald Trump à la Maison-Blanche ont été assombris par plusieurs enquêtes sur une éventuelle interférence de la Russie dans les élections ici aux États-Unis. Beaucoup de questions restent sans réponse à ce propos. Le point avec Lionel Gaïma.
Le 10 janvier, les hauts responsables des renseignements américains ont témoigné pour la première fois devant une commission du Sénat sur les efforts russes en vue de saboter la dernière présidentielle américaine. James Clapper, ancien directeur des services secrets. Nous croyons fortement que le président Poutine a ordonné une campagne d'influence en 2016. Ses objectifs étaient d'amoindrir la foi au processus démocratique américain, dénigrer Hillary Clinton et réduire ses chances à la présidence. M. Poutine et le gouvernement russe ont affiché une nette préférence pour Trump, le président élu.
Putin and the Russian government also developed a clear preference for President-elect Trump.
Il y a beaucoup d'accusations, mais très peu de preuves dans le plus gros scandale à secouer Washington depuis plusieurs années. Après plusieurs semaines, il y a eu la démission du conseiller de Trump à la sécurité nationale, le limogeage de la ministre intérimaire de justice et la décision du président de la commission du renseignement de la Chambre de se récuser de ses enquêtes liées à ce scandale. Finalement, le directeur du FBI rend public ce qui était déjà l'objet des supputations en disant que son agence avait commencé une enquête sur la Russie en juillet dernier. J'ai obtenu le feu vert du ministère de la Justice pour que le FBI mène des enquêtes sous les efforts du gouvernement russe visant à interférer dans les élections de 2016, ce qui inclut la nature d'éventuels entre des individus associés à la campagne de Trump et le gouvernement russe. Donald Trump a qualifié ces accusations de canulars, affirmant que le vrai scandale, c'est la surveillance que l'administration Obama aurait ordonnée sur lui et ses associés pendant la campagne de l'année dernière.
It's all fake news.
Ce sont des fausses nouvelles, Mais pour Richard Benveniste, ancien procureur dans le scandale de Watergate, l'enquête sur Trump, c'est du sérieux. Ça met en relief les vulnérabilités de notre démocratie et des autres démocraties dans le monde sur des techniques d'interférence, le piratage informatique, la désinformation et plusieurs sortes de perturbations dont nous devons être protégés. Et les parlementaires américains veulent aller jusqu'au bout et aussi longtemps que cela prendra. Richard Burr, président de la commission du Sénat, sur le renseignement. On ne dira jamais assez ce que la mission de la commission, qui est de passer à la loupe toutes les activités que la Russie a pu mener pour altérer ou influencer les élections de 2016 aux États-Unis. Et la commission sénatoriale sur les renseignements est l'une des 5 entités qui doivent regarder de plus près cette interférence russe. Cet employé de cette commission doivent passer en revue des milliers de documents classés secrets. Une 20aine de témoins seront interrogés, dont Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump. Le FBI a refusé de commenter, mais le mois dernier, son directeur James Comey a affirmé qu'il est franchement impossible de dire le temps que l'enquête prendra.
Proche-Orient maintenant, le secrétaire américain à la défense Jim Mattis a affirmé ce vendredi lors d'une visite en Israël qu'il n'y a pas de doute que le régime du président syrien Bachar al-Assad a conservé des armes chimiques. S'exprimant devant la presse en présence du ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, M. Mattis a mis en garde le régime syrien contre recours aux armes chimiques après l'attaque chimique présumée du 4 avril à Khan Cheikhoun dans le nord de la Syrie. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.